des Français, Raphaël, qui sont plutôt partisans de la ligne dure portée par Bruno Retailleau.
Oui, bon, on voit les premières retombées politiques, purement hein, politiques, hein, de cette affaire, notamment avec le sondage du jour et l'abbé pour BFM TV, notamment sur ce que les Français pensent de Bruno Retailleau. En tant que ministre de l'Intérieur, le chiffre est assez éloquent. 62% des Français estiment que c'est un bon ministre de l'Intérieur. Alors, je compare avec un chiffre qui date d'août 2023 sur Gérald Darmanin. Il avait 41% d'opinion favorable, donc c'est beaucoup mieux pour Bruno Retailleau, à ceci près qu'en août 2023, Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur depuis 3 ans. Donc forcément, le contexte est extrêmement différent. Avec quelques spécificités, Bruno Retailleau, c'est un bon ministre pour 80% des plus de 65 ans. Donc, il fait quasiment l'unanimité chez les plus de 65 ans. Et 87% des électeurs LR, ça a son importance en ce moment. Sur, effectivement, la conduite à tenir face à l'Algérie, avec la méthode plutôt Retailleau ou la méthode Barrot. C'est assez équilibré, même s'il y a un avantage pour la méthode dite de forte, le rapport de force. 50% des Français qui se disent plutôt partisans de ce rapport de force, sachant que ce rapport de force est décrit dans le sondage, justement, sur la fin de l'accord de 68 et une action sur les visas. Et 44% des Français sont partisans d'une approche nuancée, on va dire plus diplomate ou diplomatique. Et puis si on dézoome un petit peu sur ce que pensent les Français de la politique migratoire de la France, justement, elle est toujours jugée très majoritairement trop laxiste, plus des deux tiers. Hein. 65% des Français qui estiment que la politique migratoire de la France est trop laxiste. C'est tout de même 8 points de moins que fin 2023, justement. On était à 73%, donc il y a quand même une baisse de cette impression, en tout cas, de laxisme. Et puis, un autre chiffre, je vais dire presque un tiercé absolument passionnant, sur la confiance des Français vis-à-vis des hommes et femmes politiques sur le sujet de l'immigration. Et là, c'est important parce que Bruno Retailleau, alors oui, personne n'a la majorité.
C'est le chiffre le plus intéressant.
Et exactement, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier, d'ailleurs.
Ouais. pour garder votre attention jusqu'au bout.
Exactement. Personne n'a la majorité. On remarquera, Bruno Retailleau passe devant le RN. 47% de Français lui font confiance sur ce sujet-là de l'immigration, devant Marine Le Pen, qui est quand même assez loin derrière. Un vrai décrochage, 41%, comme Jordan Bardella. Gérald Darmanin, il est quatrième, avec 38%. Loin derrière, je citerai quand même assez étonnant, Éric Zemmour, avec seulement 25%. Et encore une fois, c'est pas anecdotique.
Marine Le Pen, je me ferai des cheveux.
Et Laurent Wauquiez, très loin derrière, 24%. Et là encore, évidemment, c'est assez important dans les perspectives à venir chez les Républicains.
On voit qu'il y a aussi du jugement global sur toutes ces personnalités. Moi, j'ai regardé le détail selon les appartenances partisanes. Pourquoi Bruno Retailleau fait mieux que Marine Le Pen? Parce qu'il est rejeté, évidemment, à gauche, mais pas atrocement.
Ouais. Quasiment un tiers
des gens de gauche disent oui, j'ai confiance en lui. Donc, vous voyez, il a déjà cranté. Il est évidemment très apprécié.
Ce qui peut paraître étonnant, parce que la même gauche lui reproche d'employer les mots, le discours du Rassemblement national.
C'est la gauche qui parle, mais la gauche qui vote, elle n'a pas la même...
Il y a un décalage entre les députés du Front populaire, qui trouvent Retailleau et Bayrou acquis aux idées du RN, et la France, qui vote à gauche, et qui trouve que sur l'immigration, il fait une partie du boulot.
Notamment PS.
Il est apprécié dans la Macronie, c'est logique, très apprécié à droite, mais dans l'électorat RN, là, il y a quand même encore un avantage pour Marine Le Pen. Alors, ça veut dire que Bruno Retailleau n'a pas encore gagné ce qui est son véritable pari. C'est de siphonner l'électorat RN, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy avant 2007 avec l'électorat FN, ce qui avait mené Sarkozy à faire reculer Jean-Marie Le Pen et à être élu président de la République. Le pari de Retailleau ne sera gagné que quand les électeurs du RN diront « on a trouvé mieux, quelqu'un de plus compétent, de plus pragmatique, de peut-être de mieux entouré ». Au revoir Marine Le Pen, nous allons voter Bruno Retailleau dès le premier tour de la présidentielle. Là, il aura gagné son pari.
Avec une petite astérisque méthodologique.
Bien sûr, c'est des petits effectifs.
Exactement, comme on est sur un échantillon global de à peu près 1000 Français, quand on fait des sous-catégories, forcément la marge d'erreur.
Non, mais on sent bien là.
On sent, et puis surtout pour les tendances. Et pour les tendances, c'est très intéressant.
Bruno Fuchs, qu'est-ce que ça vous inspire de voir que Bruno Retailleau sur les politiques migratoires est plus populaire que Marine Le Pen?
Et je pense qu'il a, c'est justifié, parce que j'étais avec Bruno Retailleau à Mulhouse, on a passé la soirée, je l'ai accompagné toute la soirée, on l'a vu sur les images. C'est quelqu'un qui est très ferme, qui rappelle des principes forts, mais qui est très humain. J'ai vu poser des questions aux policiers qui ont été agressés, qui sortaient de l'hôpital, mais des questions de père de famille. pas des questions de ministre de l'Intérieur. Il est capable de beaucoup d'empathie, de beaucoup d'humanité et d'une très grande fermeté, ce que ne sont pas, bien sûr, les représentants du RN.
Anaïs Place, moi j'aimerais bien avoir votre avis, vous qui connaissez très bien ces questions, sur ce sondage, sur l'opinion des Français. Une grande majorité des Français estiment que notre politique est trop laxiste en matière d'immigration. Comment vous l'expliquez ?
Vous m'avez vu réagir, ouais. 65%. À vrai dire, ma première réaction, c'est de penser que les Français ne savent pas très bien, en réalité, de quoi on parle en matière d'immigration. Parce que je vous assure que moi, des OQTF, j'en conteste toutes les semaines devant des tribunaux administratifs. Si je vous racontais, si on prenait le temps que je vous raconte individuellement les histoires de mes clients, je pense que vous pouvez arrêter n'importe quelle personne dans la rue. Dans 95% des cas, on vous dira « Ah oui, mais non, ah non, mais cette personne, non, c'est pas pareil, non, mais moi, je parle pas de lui. » Voilà. Les quasiment 150 000 OQTF qui sont prises l'année dernière en France, ce ne sont pas des gens qui ont commis des infractions. Il faut bien se rappeler quand même que l'OQTF, ce n'est pas une réaction administrative à l'infraction. Ça peut être des étudiants à qui on refuse un changement
de statut. Des gens en situation irrégulière.
Oui, mais pas que. Il y a aussi des refus de renouvellement. Il y a, des changements de statut et des gens en situation irrégulière qui demandent leur régularisation. Par exemple, parce qu'ils remplissent absolument tous les critères qui sont fixés par, à l'époque, la circulaire Valls, qui travaille depuis 2, 3, 4, 5 ans. C'est votre nounou, votre femme de ménage, c'est l'homme qui fabrique votre pain le matin, qui va faire le nettoyage dans les locaux de l'hôpital, par exemple. Ces gens-là, invisibles dans notre société, ils font l'objet d'OQTF. Et donc, il faut quand même aussi parler sincèrement aux Français de l'immigration, c'est-à-dire leur rappeler que l'immigration, c'est aussi effectivement des gens qui les soignent, des gens qui prennent soin d'eux, qui construisent leur maison, des gens qui font des études, des gens comme vous et moi, comme leurs enfants. Et que le focus qu'on met sur des histoires terribles comme celle de Mulhouse, elles sont préjudiciables à tous les immigrés, évidemment, mais à toute la société dans son ensemble, parce que cette immigration, on en a besoin. Et donc, c'est là que moi, ça me met toujours en colère quand on fait autant de ramdam, si je puis dire, sur l'extranéité de la personne. Non, mais attendez, c'est quel regard on porte sur des faits aussi terribles
qu'ils soient. Non, je parlais de l'étymologie du mot ramdam.
Ah, pardon. Non, voilà, c'est-à-dire qu'on va voir l'extranéité. Ouais. Vous voyez, dans l'affaire terrible de la petite Philippine, ce qu'on a vu avant tout, c'était un étranger. Mais c'était aussi un homme qui avait passé des années en prison. Qu'est-ce qu'on a fait de cette prison ? Est-ce qu'on l'a rendue utile, la prison ? Est-ce qu'on a permis la réhabilitation ? Là, on a quelqu'un qui souffre manifestement de troubles psychiques et on ne cesse de parler d'enfermement. Mm-hmm. Est-ce que cette personne est soignée ? Est-ce qu'on a permis
C'est vrai qu'il y a ce désarroi et ce dysfonctionnement global des politiques d'intégration. Mais les Français sont quand les Français sont quand même en ce moment en train de se dire une partie de ces gens ou la totalité de ces gens qui commettent des actes tragiques, ben une grande partie d'entre eux n'aurait pas dû rentrer. Pourquoi les a-t-on laissés rentrer ? Par quel orifice de notre droit et de notre territoire ont-ils réussi à rentrer ? C'est ça qu'ils ne comprennent pas.
En fait, ce que vous dites, c'est qu'il
y a choisir ceux qui viennent et qu'en effet, on va intégrer parce que leur utilité est manifeste et leur volonté de s'intégrer est totale. On n'arrive pas à trier.
Mais ce que vous dites, en fait, vous, Anaïs Place, c'est qu'il y a une méconnaissance des sujets parce qu'on ne voit ce sujet migratoire que par les faits divers essentiellement
et
on n'a pas un panorama global de ces questions-là.
Oui.
Et on aura l'occasion d'en reparler et on vous réinvitera sur ce sujet, parce qu'effectivement, il faut prendre le temps pour avoir, un panorama global. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Merci à vous.